Chers amis des cellules, bonjour. Nous reprenons notre commentaire de la lettre à Philémon avec le père Adrien Candiar. Nous avions retenu quatre points particuliers. Le premier, c'est une illusion que de croire que le remède à une volonté faible serait la contrainte. Une volonté qui a du mal à tenir, à persévérer, ne n'ira pas mieux en établissant tout un système de garde-fous, de garde-chiourme. C'est une illusion que de le croire. Deuxième point, la morale chrétienne, au cœur de la morale chrétienne, la volonté de Dieu est que l'homme engage librement sa volonté. Dieu a le désir que l'homme soit capable de discerner et d'engager sa volonté librement. Le troisième point, Dieu n'interdit pas, mais il avertit l'homme de ce qui le fait mourir. Oui, Dieu n'interdit pas, il n'est pas le Dieu qui interdit, mais il avertit l'homme de ce qui réellement le fait mourir. Et puis quatrième point, c'est une vision inspirée par le tentateur que de croire que Dieu nous interdirait des choses qui pourraient être bonnes pour nous. Nous reprenons maintenant le texte. En essayant de comprendre ce qui fait que nous sommes sensibles à la vision de Dieu que propose le serpent. Qu'est-ce qui fait que les paroles du serpent trouvent en nous un écho, trouvent en nous un goût, un appétit? Je reprends la lecture. L'erreur d'Adam et Ève, pour le dire autrement, c'est de confondre l'interdit et l'impossible. Dieu leur dit qu'il est impossible de manger le fruit et de vivre. Ils comprennent que manger le fruit est interdit, alors même que cela leur ferait du bien, selon eux. Tous les commandements de Dieu, pourtant, ne font que nous avertir de ce qui est impossible. La tentation, c'est de rêver un autre monde où l'impossible n'existe pas, un monde où Adam et Ève peuvent manger du fruit mortel de l'arbre et ne pas mourir. Un monde où on peut se droguer, mais en restant libre, sans dépendance, où on peut inviter au restaurant la charmante stagiaire du boulot, tout en restant un père de famille exemplaire, où on peut se montrer cruel ou mesquin envers quelqu'un, sans devenir véritablement cruel et mesquin, où on peut être à la fois voleur et fier de soi, un monde où nos actes seraient sans gravité. Un monde où l'on peut être pécheur et heureux, et le tour de force du tentateur depuis le serpent d'Adam et Ève, c'est de nous faire croire que rien de cela n'est impossible, mais que c'est tout simplement interdit. Vous voyez, il y a là quelque chose de très finement observé, c'est cette distinction entre l'interdit et l'impossible. Alors que Dieu, en nous parlant, alors que Dieu, en se révélant, éduque l'homme sur ce qui est possible dans le monde dans lequel il évolue, dans le monde qui a été créé, alors que par la révélation, Dieu nous indique la réalité, eh bien, dans le sillage du tentateur, nous sortons en fait de cette réalité et nous imaginons que ce que Dieu dit, c'est seulement un interdit. Nous imaginons que Dieu ne nous dit pas ce qui est impossible, mais que Dieu, au contraire, ferme les possibilités qui pourtant existeraient. L'œuvre du serpent, c'est de nous faire quitter la réalité du monde pour nous plonger dans un monde imaginaire, en fait, dans un monde où tous nos caprices sont non seulement possibles, mais aussi sans conséquences. D'où les exemples qu'il prend, notamment celui du drogué. Je pense qu'en prenant des stupéfiants, en prenant de la drogue, eh bien tout ira bien. J'aurai simplement le plaisir que ça procure, mais je n'en aurai aucune dépendance. Je n'en aurai aucun contre-coup pour ma santé. Parce que je ne désire que le plaisir, je n'aurai que le plaisir. Et tout ce qui va avec, en fait, puisque je ne le désire pas, ça n'existera pas. Quand on regarde notre société, on voit que la perte de cette distinction est vraiment très présente, que ce soit par exemple sur la question de la famille, la question de l'enfant. C'est un principe de réalité qu'un enfant naît de l'alliance et de l'union physique d'un homme et d'une femme. Et l'on se dit, eh bien non, moi je voudrais que ce soit différent, et donc ce doit être différent, parce que mon désir, mon rêve, c'est ça qui doit façonner la réalité. La vision que le tentateur nous a donnée, c'est finalement que la réalité n'existe pas, mais que mon rêve est plus réel que le monde. Mais cela ne va pas en fait sans conséquence, parce que, comme dans Genèse 3, leurs yeux s'ouvrirent et ils virent quoi? Qu'ils étaient comme Dieu? Non, simplement qu'ils étaient nus. Pour donner peut-être encore une image de ce que cela représente comme disposition, j'utiliserai l'image de celui qui est en chute libre et qui pense qu'il est en train de voler. De fait, la chute libre peut ressembler au vol jusqu'au moment où on touche le sol, et à ce moment-là, on s'est écrasé. On avait substitué à l'interprétation de la réalité notre rêve, mais la réalité se rappelle à nous comme le sol à celui qui était en chute libre. Je reprends la lecture. Il y a deux façons de prêter l'oreille à ce tentateur. La plus évidente consiste à se révolter devant ce Dieu tyrannique et jaloux. Mais on peut aussi accepter sa domination et s'en faire l'esclave. Dans les deux cas, quelle catastrophe! Quel contresens devant ce que le vrai Dieu essaie de nous dire! Car il n'y a qu'une façon de faire la volonté de Dieu, c'est en l'aimant cette volonté, en croyant qu'elle est bonne pour nous, qu'elle nous conduit à un bien véritable. C'est donc en la voulant librement. Certainement pas en fermant les yeux et en courbant la tête. Il ne s'agit pas d'obéir, mais de comprendre. Et en comprenant, je vais sans doute trouver le bien désirable et le mal dangereux. J'agirai alors librement parce que j'aurai reconnu mon bien et je le rechercherai de mon plein gré. Alors je ferai véritablement ce que je veux et ce que Dieu veut. Là encore, on a quelque chose de très fin de la peur du père Candiard. Il manifeste qu'il n'y a pas seulement la révolte contre la volonté de Dieu qui est ouverte et qui va à l'encontre de Dieu, qui suit l'inspiration du tentateur, mais aussi une espèce d'obéissance servile qui courbe l'échine devant Dieu. Cette obéissance servile qui en fait ne comprend pas et qui est simplement qui se plie à la loi du plus fort n'est pas ce que Dieu veut et s'y cantonner est encore se faire l'adepte du tentateur. Alors il y a quelque chose que l'on pourrait dire, n'y a-t-il pas des cas où il vaut mieux quand même obéir, j'ai pas tout compris mais j'obéis parce que je fais confiance à celui qui me parle. Alors cette remarque est juste. Cette remarque est juste, mais vous voyez qu'elle nous place en fait dans la situation de l'enfant. Dans un premier temps, l'enfant, si je reprends l'exemple de la prise, ne mettra pas ses doigts dans la prise parce que ses parents qui l'aiment lui ont dit de ne pas le faire, parce que ses parents en qui il a confiance lui ont dit de ne pas le faire. Mais vous comprenez bien que cette façon d'obéir n'est qu'une étape pour que l'enfant comprenne un jour en quoi c'est dangereux de mettre les doigts dans la prise, en quoi le choc électrique qui en résulterait pourrait provoquer un choc cardiaque. L'enfant est appelé à comprendre, à quitter le statut de l'enfant pour entrer dans le statut de l'homme adulte, de son raisonnement, de sa capacité à discerner ce qui est bon, ce qui le fait vivre, et à discerner ce qui est au contraire nuisible et le fait mourir. Nous sommes appelés de même face à la loi de Dieu, entre guillemets, à la comprendre pour en découvrir la bonté et pour en faire librement notre propre loi parce que nous avons vu qu'elle est chemin de vie. Ma volonté rejoint alors la volonté de Dieu. Nos deux volontés n'en font plus qu'une et c'est là où Dieu veut nous mener. Je reprends la lecture. En effet, l'ennui, si je confonds la vertu avec une soumission pénible, et d'autant plus méritoire bien sûr qu'elle serait pénible, si je confonds donc la vertu avec une soumission pénible à une volonté divine incompréhensible, c'est qu'alors je continue à penser dans un petit coin de ma tête que ce péché que je m'interdis de regarder, il me ferait pourtant du bien. Si Dieu est un tyran, même si j'entends lui obéir, la transgression aura toujours des couleurs séduisantes. Que de rapports ambigus et malsains au mal prennent leur source dans cette confusion qui nourrit bien des addictions et des sentiments de malaise. C'est qu'on continue à croire que le mal n'est que dans la transgression, alors que c'est au contraire le péché lui-même qui nous détruit. Tous les confesseurs savent comme moi que le sentiment dominant du pécheur, ce n'est pas la honte de l'aveu, qu'il faut pourtant bien du courage à surmonter. Ce n'est pas la honte de l'aveu, mais le malheur. Une douleur presque physique qu'il y a à raconter quelque chose que je trouve injustifiable et qui pourtant est ma vie. On ne peut pas être heureux contre sa conscience. On ne peut pas être heureux quand on est en guerre avec soi-même. Je m'arrête pour souligner la phrase suivante. On continue à croire que le mal n'est que dans la transgression, alors que c'est au contraire le péché lui-même qui nous détruit. C'est quelque chose de très fin et de très bien vu, là encore. Dire que le mal ne serait que dans la transgression, c'est ce qui nous fait, notamment, contempler le péché. On pense que sa contemplation est sans conséquence, un peu comme quelqu'un qui regarderait une part de gâteau et se disant « Mais bon, je ne peux pas la manger, ce n'est pas à moi, ou bien je risque d'être malade si je mange, mais après tout, je peux le renifler, je peux le humer, et puis si je touche simplement avec mon doigt et que je goûte, là je ne prends pas une vraie part, donc finalement je peux le faire, ça ne fait rien, il n'y a pas de mal qui est fait, il n'y a pas de conséquence. » Alors qu'en fait, il y a déjà plein de conséquences qui sont en jeu. Quand je suis en train de regarder cette part de gâteau, de la renifler, eh bien j'ai tout mon appareil digestif qui est en train de se préparer à manger, parce qu'il est fait pour ça. En sentant ces bonnes odeurs, parfois même en goûtant, eh bien mon estomac se prépare, et s'il ne reçoit pas ce pour quoi il est fait quand il reçoit ces signaux, eh bien il va réagir avec de l'acidité. Alors c'est un exemple qui peut sembler trivial, mais qu'on pourrait élargir à la sensualité avec cette idée de « Ah oui, je regarde, mais je ne toucherai pas, je n'irai pas plus loin. » Qu'on pourrait élargir aussi à la convoitise. Je réfléchis simplement à ce que je pourrais faire avec cet argent si je prenais dans la caisse. Mais bien sûr, je ne prendrai pas. Sauf que je nourris ma mémoire de projets qui sont des projets faux, qui sont des projets déviants. Et cela laisse une trace en moi. J'ai l'impression que la rêverie ne laisse pas de trace, mais elle en laisse une, et une réelle, et une profonde, qui mettra peut-être du temps à germer, mais qui déjà me transforme. Tant que je n'aurai pas compris que le péché fait mourir, que le fruit du péché est la mort, tant que je ne l'aurai pas admis, il y a quelque chose en moi qui restera complice avec le péché, quelque chose en moi qui pensera qu'il est possible d'avoir l'ivresse de l'héroïne sans avoir la dépendance. D'où le fait de raconter en confession quelque chose que je trouve injustifiable et qui pourtant est ma vie. Je savais que cela me faisait mourir, je l'avais entendu, mais pourtant j'ai choisi de croire autre chose, j'ai choisi de croire que ça ne ferait pas mourir, et évidemment ça m'a fait mourir. D'où cette tristesse, on ne peut pas être heureux contre sa conscience, on ne peut pas être heureux quand on est en guerre avec soi-même. Je reprends la lecture. Paul n'est pas un naïf ni un indifférent. S'il ne dit pas à Philémon ce qu'il doit faire, ce n'est pas parce qu'à ses yeux les deux options se valent, et qu'il peut bien après tout, au nom de sa liberté, affranchir Onésime ou le châtier. Paul sait très bien qu'il y a dans ce choix un bien évident et un mal évident, mais il sait aussi qu'il n'aura rien obtenu s'il oblige simplement Philémon à bien agir. Encore faut-il qu'il le veuille. Encore faut-il qu'il reconnaisse le bien en conscience. Et cela, Paul ne peut pas le faire à sa place. Oui, il y a vraiment cet aspect essentiel pour que le bien que nous faisons soit un bien véritable. Il faut qu'il soit reconnu par notre intelligence, notre volonté qui s'y applique, et ainsi nous voulons ce que Dieu veut. Mais agir selon la lettre que Dieu nous donne, alors que notre volonté y va à reculons, eh bien nous ne faisons pas le bien. De l'extérieur, on pourrait le croire, mais intérieurement, nous ne le faisons pas. Et du coup, la globalité de notre acte n'est pas un acte bon, quand bien même extérieurement, matériellement, il le serait. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, et je vous propose de retenir encore quatre points. Le premier point, c'est cette distinction entre interdit et impossible. Dieu nous dit ce qui est impossible, et le serpent veut faire croire que cet impossible n'est qu'un interdit. Le deuxième point, la révolte contre ce que Dieu nous dit, mais aussi la soumission de l'esclave, sont deux façons de prêter l'oreille au tentateur, de ne pas faire la volonté de Dieu. Dieu souhaite que nous comprenions le bien qu'il nous indique. Troisième point, bien comprendre et admettre que le mal n'est pas dans la transgression, mais dans l'acte lui-même. Le péché nous détruit. Nous garder de cette erreur de penser que seule la transgression détruit, non, l'acte lui-même détruit, et donc je ne peux pas m'en approcher impunément. Quatrièmement, faire cet effort, avoir ce souci de reconnaître le bien en conscience. Et ça, on ne peut pas le faire à la place d'un autre, on peut accompagner quelqu'un pour qu'il reconnaisse quel est le bien et le mette en pratique. La prochaine fois, nous terminerons notre lecture du chapitre 2 en examinant ce qui peut être le moteur de notre volonté pour faire le bien, puisque ça ne peut pas être la contrainte. Bons échanges à vous, à bientôt.